Nous sommes réunis à la Villa Arson, où en juin dernier a eu lieu 3 expositions réalisées par des auteurs dont le point commun est de placer l'oralité et la transmission au cœur de leurs préoccupations. Pour ce deuxième enregistrement, nous allons converser autour de l'exposition personnelle de Jean-Yves Joinet, « Comment se faire raconter les guerres par un grand-père mort », avec la complicité de Grégory Castera, Yaël Créplac, Franck Lebovici et Jean-Pierre Cometti.
Ce qui est très troublant dans l'expo, c'est qu'on t'entend déjà en double.
Oui.
Puisqu'on t'entend dans les haut-parleurs et tu es devant nous.
Mais t'étais pas là ce matin quand il y a eu la visite. Et j'étais là, puis j'étais un peu énervé, fatigué, j'ai pas envie de parler. Puis je dis à un moment, mais je regarde méchamment derrière le poteau, je dis, vous pourriez vous arrêter de parler? En fait, c'était ma voix. Et je m'étais engueulé, en fait. J'avais oublié qu'il y avait ma voix dans l'espace qui me parasitait moi-même. Donc
tu n'as pas besoin de parler quand tu as tout dit déjà. Voilà. Et si la vie pouvait être comme ça.
Voilà. Donc là-bas, il y a un espace qui est un espace de projection.
On peut peut-être se mettre juste dans l'autre salle où ce sera peut-être un petit peu moins.
Juste remercier
pour
votre projet de base
Non, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a, évidemment des parallèles évidents entre ce qu'on vient de raconter sur votre exposition et les principes qui gouvernent cette exposition. Dans le sens où le discours est premier et qu'il s'agit d'en proposer une transcription abordable, lisible, partageable. Ce qui n'était pas un projet premier dans l'entreprise de l'Encyclopédie des Guerres, qui était un projet de littérature orale où, feuilletonnant cet abécédaire que je constituais au fil du temps, et il ne s'était jamais posé la question de l'exposition. Et en fait, c'est des propositions, des invitations qui m'ont suggéré qu'il y avait peut-être quelque chose à imaginer. Et la réponse, en fait, elle est assez... Elle est assez simpliste, je dirais, dans le sens où l'exposition est constituée de deux temps. Le premier temps, c'est une salle où sont exposées ce que j'appelle les entrées de l'Encyclopédie des Guerres, lettre par lettre, à savoir les mots de cette encyclopédie aujourd'hui, c'est-à-dire précisément 813 entrées qui vont de « abattre mort », qui est une expression dont il y a 16 occurrences dans la chanson de Roland, et c'est le seul endroit où j'ai trouvé cette expression « abattre mort », et la dernière qui est « zouave ». Et là où je peux imaginer qu'il y aura d'autres entrées avant « abattre mort », puisque la première, il y a 6 ans, c'était « armure », ça a été « amour », ça a été « abeille », et « abattre mort » aujourd'hui. Donc après « zouave », je ne connais pas de vocable qui pourrait m'emmener au-delà de « zouave ». Et donc c'est disposé au mur... toutes les entrées de l'Encyclopédie des Guerres, certaines sont très laconiques. C'est par exemple une entrée où il y a juste une citation. Enfin, voilà, parce que soit elle a été créée très récemment, soit parce qu'elle a été créée il y a longtemps, mais j'ai jamais retrouvé le terme qui m'intéressait dans d'autres livres. Et puis d'autres très pléthoriques, dont l'entrée Boom et l'entrée Inventaire, qui sont les plus importantes en termes de volume, puisque Boom, c'est la collection de toutes les onomatopées de guerre que j'ai trouvées dans les livres de guerre, les boum, tac, 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 pam, 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 vraoum, etc. Et Inventaire, qui est une encyclopédie des guerres, véritablement au cœur de l'encyclopédie des guerres, puisque c'est un catalogue de listes. C'est un catalogue d'inventaires que je trouve dans des livres de guerre. Alors, le plus fameux, c'est le champ 2 de l'Iliade, qu'on appelle le catalogue des vaisseaux, où sont listés... Et les chefs de guerre, et le nombre de nefs et de soldats qui partent à la guerre, à Troie. Pardon ?
Dans les Perses.
Dans les Perses d'Eschyle. Voilà, c'est bout de... Mais ça peut être aussi dans les livres techniques, où des fois, il y a le matériel d'une telle division à un moment donné, l'effectif listé. Je recopie toutes ces choses-là. Donc voilà, c'est...
Oui. Technique, c'est de recopier, en fait, de saisir à la main, enfin, au clavier.
Oui. C'est pour ça que Bouvard et Pécuchet, le livre et les personnages sont vraiment les figures tutélaires de l'Encyclopédie des guerres. Ce travail de copiste. En fait, ce qu'on entend, là, c'est le générique de chacune des conférences, qui est composé d'un point de vue iconographique, d'un moment, d'une démo d'un jeu vidéo qui s'appelle Medal of Honor. Voilà. Et sur quoi j'ai plaqué un morceau d'un groupe que j'aime beaucoup, qui s'appelait Gang of Four, et un groupe important des années 80, et c'est l'histoire d'une mère qui envoie son fils à la guerre. Et donc, je lis des livres, je corne les pages, et après je reprends mon livre et je vais rechercher le mot qui m'avait arrêté ou la phrase qui m'avait intrigué, et parfois je ne retrouve pas d'ailleurs. Et je recopie. Et il y a aujourd'hui un peu plus de 4 millions de signes en fait, dans l'Encyclopédie des guerres. Et ça existe dans mon ordinateur, donc je suis très content de le montrer, mais c'est une... Et je crois que ce que je vais décrire caractérise l'ensemble de l'exposition. Il y a un parti pris d'innocence, où c'est très enfantin. Enfin, c'est comme un gamin qui est content de montrer sa collection de billes dans la cour de récréation. Il y a un côté... Parce que c'est une collection, je suis super fier de montrer qu'il y en a plus qu'avant. Et il y a des choses totalement ridicules. Et je m'en rends compte parce que quand j'ai accroché la semaine dernière, évidemment, je me rends compte qu'il y a beaucoup moins de Y que de F ou de M, et ça m'énerve. C'est une réalité du lexique, enfin voilà. Mais j'aime pas ça. Donc, par exemple, il y a une entrée F, il y a une entrée femme, et quand je suis rentré à Paris, j'ai créé une entrée Valkyrie. J'ai enlevé l'entrée femme et je l'ai appelée Valkyrie pour qu'il y ait plus de W. Et depuis, j'ai créé une entrée à Y qui s'appelle Yak, Y-A-K, qui est un des chasseurs importants de l'aviation soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, parce que ça m'énerve, j'aime pas ça. Enfin, c'est...
Donc c'est marrant parce que le système de visualisation et de classification que tu as créé, oui, a des effets d'écriture en fait sur ta pratique en fait de lecture.
Oui, oui. D'enregistrement.
Oui. Mais c'est des choses qu'on va voir avec soit la superstition, soit la maniaquerie, mais ça, c'est pas du tout fondé intellectuellement ou épistémologiquement. C'est pour ça, je... Par exemple, j'ai créé, il y a une entrée qui s'appelle uligineux. C'est un mot un peu pédant, mais enfin, qui désigne les espaces bourrés de flotte, en fait. C'est des marécages. Alors, il y a beaucoup de M, ça m'embêtait d'appeler ça marécage. En tout cas, dans Marécage, il y avait toutes ces citations que je trouvais de scènes de combat dans des marécages, dans des... Alors, il y en a beaucoup. Et après, j'ai appelé ça palude. Il y avait moins de P, mais ça faisait trop André Gide. Et donc, j'ai trouvé ce mot uligineux. Je me dis, j'avais pas beaucoup de U. Bon, voilà, c'est...
Donc, tu mets très... Enfin, ce qui est marrant, ouais, c'est que sort... Tu vois, tu commences à dire, moi, je fais que recopier. En fait, la dimension d'écriture, elle est très forte... dans la façon d'écrire les entrées, en fait.
Au final, oui. Mais c'est, j'assimile ça. Après, quand je dis que c'est une collection, ce n'est pas autre chose qu'une collection, mais qu'un numismate, il commence à collectionner un tas de pièces. Et après, il se pose la question de comment il va à une bourse d'échange, où il va, comment il conçoit la petite boîte avec la feutrine au fond pour les montrer, pour les échanger. Enfin, tu vois, comment cette chose-là seconde de du partage... Comment je partage ça? Il faut que ça soit beau, il faut que ça soit... Ça, c'est le caractère kitsch de la chose. Alors, juste une dernière chose sur ces impressions, ce que j'appelle les liasses. Elles sont imprimées avec une typographie qui a été créée pour l'Encyclopédie des guerres, qui a été dessinée par des étudiants d'un BTS de Bagnolet, qui ont dessiné... une typographie pour l'Encyclopédie des guerres qui a pour particularité, sur la base d'un garamond, que toutes les lettres qui composent mon prénom et mon nom sont un peu blessées par la guerre, un peu esquintées. Mais c'est très joli. Enfin, j'aime beaucoup l'idée, d'autant plus que c'est un cadeau. J'ai jamais rien demandé, je n'ai jamais imaginé avoir une typographie pour l'Encyclopédie des guerres. Voilà. Je ne vais pas... Peut-être parler du grand-père qui est présent à plusieurs endroits, qui est présent sous forme de sculpture à l'entrée. Ce n'est pas une vierge à l'enfant, c'est un poilu à l'enfant. C'est même pas un poilu puisque c'est l'uniforme français de 1915 à 1948. Donc c'est juste mon grand-père en 1945, donc c'est pas un poilu, qui tient un enfant. Donc évidemment le titre fait référence à la pièce de Boyce, la performance de Boyce en 65. Comment raconter les tableaux à un lièvre mort. Et ça raconte l'exercice de ventriloquie ou de schizophrénie qui est pour moi l'essentiel de l'expérience de l'Encyclopédie des guerres, à savoir, puisque cet homme qui est mort en 45 noyé n'a pas pu me raconter ses guerres et donc les guerres, je me charge tout seul moi-même de me les raconter à moi-même. Et donc c'est moi qui me charge de lire tous les livres pour, voilà, puisque j'ai pas eu cet héritage, j'invente cette idée qu'il... Voilà, je m'invente ce cadeau qu'on m'aurait pas fait. Voilà, je le bricole tout seul.
C'est pour ça que tu arrêtes en 45.
C'est pour ça que j'arrête en 45 à la date de sa mort. Exactement. Et ça m'arrange bien, pour plein d'autres raisons, mais ça m'arrange beaucoup. Et
mais donc. Pas dans un autre type de conflit après.
Oui, enfin, l'ère nucléaire me pose problème. Et puis parce que je tiens à ce que ça soit les guerres racontées par un grand-père, un enfant. Enfin, ça m'importe énormément. Alors. Là, il y a là des choses qui sont des collages. C'est un ensemble qui s'appelle Histoire naturelle, que j'attribue aussi à ce grand-père. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il aurait pu m'offrir pour m'expliquer les guerres ? Alors, ce sont des collages qui ont pour modèle des ouvrages, et je pense à des atlas zoologiques du XIXe siècle, où on représentait les animaux dans leur écosystème. Donc là, c'est le cas de donc ce sont des monographies. Le point de départ, c'est ce scientifique, qui s'appelait Carl von Linné, qui, en 1735, publie la première édition d'un ouvrage très important, qui s'appelait « Les systèmes de la nature », classification des espèces vivantes, selon leur règne, l'ordre, la classe, voilà. Et il met au point ce qu'on appelle la nomenclature binomale, c'est-à-dire qu'il attribue un nom latin à toute espèce et toute sous-espèce vivante, et qui est une nomenclature tout à fait d'actualité encore aujourd'hui. Et j'ai imaginé que ce grand-père, qui devait être un naturaliste amateur mais un peu fêlé, avait décidé pour moi, pour m'expliquer la guerre, de classer les matériels de guerre. Alors, il y a deux avions de 14-18, le Camel et le Fokker, mais ce sont essentiellement des avions, des chars, des automitrailleuses ou un sous-marin de la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas de matériel au-delà de la date de sa mort. Et donc, il a classé ces espèces avec leur nom latin, mais souvent aussi leur nom vernaculaire ou populaire, l'alouette a son nom savant, mais on l'appelle l'alouette, etc. Donc, par exemple, là, cet avion qui est le faute corsaire F-4 américain, eh bien, qui est rangé dans la famille des autours ou des éperviers, est représenté. C'est toujours le même, mais il est toujours différent, de la même manière qu'un singe, un tigre de Malaisie n'est pas le même qu'un tigre de Sumatra ou qu'un tigre. Voilà, c'est donc le changement du camouflage que lui il appelle robe, par exemple. Il parle pas de camouflage, il parle de robe. Il utilise que des termes qui ont trait à la vie animale. Donc il en vient à parler de l'espace de nidification de ces différentes espèces. Il est capable de repérer un spécimen femelle et mâle, par exemple. Et ce dont il est question dans ces textes, ce sont des textes très sérieux, un peu à la Buffon, où pour le coup je dis pas de bêtises sur la physiologie de ces animaux, il en vient à parler de la capacité de telle espèce à survivre dans tel écosystème, et voilà. Et ce qui est troublant, et c'est pour... c'est toi, Grégory, qui me parlais de ce travail, de cette artiste allemande, sur l'appellation, la nomination, en fait.
Natacha Sadar-Guigan, qui travaille aussi sur l'appellation des tanks allemands qui ont tous un nom d'animal. Alors, je crois que c'est pas des insectes, non, c'est aussi des félins, c'est ça ?
C'est des félins. Et il y a un éléphant aussi, mais c'est le... Et donc, il y a quelque chose d'assez parlant qui recouvre un petit peu ce que tu racontais, c'est que le U-boat allemand... Non, c'est pas celui-ci que je voulais vous montrer, c'est un des premiers que j'ai fait il y a des années. C'est ce très bel hydravion allemand, le Dornier. Walus, en fait, qui désigne en allemand comme en anglais la baleine, et il s'appelle en effet Val, c'est-à-dire que les Allemands l'ont appelé baleine. Mais ce qui est troublant, c'est qu'en effet, quand vous voyez d'un point de vue physique la structure de cette coque, on a vraiment l'impression que on a une baleine d'ailleurs quelque part, je ne sais plus où elle est. Non, c'est peut-être pas dans cette photographie. Mais ce qu'il s'agit de faire pour moi, c'est simplement de rebasculer dans ce champ premier qui est le champ animal, des objets qui ont... Ben voilà, donc c'est cette chose-là, je l'invente pas vraiment, je l'inverse en tout cas, puisqu'en effet, les noms d'oiseaux pour la dénomination des avions, c'est quelque chose de très classique. On parlait tout à l'heure des panzers allemands qui sont appelés tigres, panthères justement, ou léopards. Voilà, donc c'est pas du tout quelque chose que j'invente.
C'est un texte que
j'ai écrit, qui est tapé... sur une machine mécanique polonaise des années 40, parce que j'ai essayé de faire en sorte, ça c'est marrant parce que ça marche et ça marche pas du tout, c'est le côté complètement ambigu de la chose, c'est que au début je me suis dit je vais essayer de faire des vrais faux documents, c'est censé dater des années 30 à 40, évidemment on voit bien que c'est pas, ça marche pas du tout. Je sais plus comment s'appelle ce truc là, vous voyez quand vous faites ces espèces de normographes, voilà, ce truc qui date des 70, on voit très bien que c'est complètement à côté de la plaque. J'ai essayé de faire des vieux tampons, mais en même temps, la typo que j'utilise, enfin, ça marche pas du tout.
L'étiquette scolaire, ça renvoie à quoi, de l'archive?
Oui, j'ai essayé de bricoler des trucs, mais rien ne concorde vraiment. Et donc, bon, il y a cette frappe mécanique sur une machine mécanique où j'ai dû rajouter les accents parce que c'est une machine polonaise en fin de compte, donc il n'y a pas d'accent. Mais donc, ces espèces de bricolages qui finissent par raconter une histoire comme ça, une histoire naturelle. Et ça me rappelle tout à fait parce que Jean-Pierre, quand ça me revient maintenant, que j'avais donné une conférence bien avant l'Encyclopédie des guerres à Marseille, où j'étais censé faire une conférence sur l'art, et dans le train, j'avais regardé mes images de guerre dans mon ordinateur, j'ai dit, putain, j'ai vachement envie de parler
les images,
de ça.
Les images étaient extraordinaires.
Du camouflage. Et Jean-Pierre, je me souviens très bien, m'a dit, mais ce qui est assez troublant, c'est d'envisager comme toi la guerre, la raconter comme une histoire naturelle. Et c'est quelque chose qui m'est resté, et pour le coup, ça sortait vraiment un... Tu vois, oui, et ça remonte
moi,
à...
Je ne savais pas, c'est pour ça que quand j'ai vu ça, j'ai été Mais alors j'ai une question, parce que moi, je me souviens de ces images que tu avais montrées, notamment des images de navires pendant la guerre de sécession.
Oui.
C'était des cuirassés.
Je me souviens très bien ce que c'était.
Et je constate que tu n'as retenu que les sous-marins, ce qui concerne les armes.
Oui.
Est-ce que c'est un choix définitif?
Non, mais par exemple, l'histoire de la rencontre des deux cuirassés nordistes et sudistes est présente dans l'entrée cuirassée de l'Encyclopédie des guerres, en revanche. Mais là, puisque si je veux décliner cette histoire-là, il faut que j'ai une source iconographique satisfaisante pour... Alors là, il s'agit de l'histoire, celle dont tu parles, de la rencontre de deux individus très particuliers qui n'ont pas préexisté à eux-mêmes et qui n'ont pas eu de descendance.
Oui.
Tu vois ? C'est... Mais oui, c'était lié à cette anecdote-là. Oui, oui, oui. Oui. Voilà.
Est-ce que tu pourrais peut-être nous parler du bureau ?
Alors, ce bureau... et aussi un objet que mon grand-père m'aurait transmis, a un titre qui s'appelle « Front rouge ». Mais il a un sous-titre qui s'appelle « Opération Barbarossa ». Et le point de départ, c'est cet atlas géographique militaire qui a appartenu à un major de l'armée rouge, dont le portrait est ici, et dont le nom est ici, mais je ne sais pas lire le cyrillique. Donc, il est imprimé à Moscou en 38. Quelques années plus tard, Lénine va disparaître, mais là, il est encore présent. Et donc, c'est juste étonnant d'imaginer un homme partir à la guerre avec cette espèce d'objet pour faire la guerre, alors qu'il y a le monde entier. Il aurait juste besoin de... Enfin bon, il part avec... ça, c'était les atlas géographiques officiels des officiers d'état-major de l'armée soviétique, l'armée rouge. Et je tombe sur ce portrait qui était... glissé dedans. Enfin, je pense que c'était la famille a dû réunir à un moment donné. Et je trouve, non pas cet objet-là, mais un papier calque, un peu jauni, un peu plus grand que ce format-là, avec ses dessins. Et je me dis, qu'est-ce que ça représente? Et je passe deux jours, pas tout à fait deux jours, j'ai déjà pour faire l'intéressant, mais en tout cas, une bonne journée, à feuilleter l'atlas pour essayer de retrouver ce que ça représente. Et je trouve ça. Et ça... c'est quelque chose de très précis, c'est l'opération dite Barbarossa, le 21 juin 1941, c'est l'invasion de la Russie par l'Allemagne nazie. Donc, c'est la rupture du pacte de non-agression, c'est le moment où la guerre devint véritablement mondiale, c'est la plus grande offensive de toutes les guerres, c'est précisément 3 millions d'hommes qui vont passer de l'autre côté. Et à partir de ce moment-là, jusqu'en 1945, 80% des pertes allemandes vont avoir lieu à l'Est. Tout va se perdre ici. Et c'est juste d'imaginer ce type dont... Après, c'est moi qui me raconte l'histoire. Hein. Je ne sais pas du tout... Je me raconte cette histoire-là. Je sais que j'imagine, parce que je connais bien la Biélorussie, qui est encore aujourd'hui simplement une énorme forêt. C'est comme une des dernières forêts primaires d'Europe où il y a des aurochs, où il y a... Enfin, tu vois, comme s'il y avait des bisons en Arizona encore aujourd'hui. Enfin, c'est vraiment une... Et j'imagine ce type dans un QG de rondins au fond de la forêt et qui reçoit des informations et on dit, voilà, il est 2h du matin, 18 corps d'armée allemands ont franchi la frontière et dessinant avec peut-être les deux seuls crayons de couleur qu'il avait sur lui. Après, je fantasme, hein, je sais pas, mais... Et d'avoir trouvé ça, ça m'a beaucoup ému. En fait, ce que j'ai voulu faire, mais qui marche pas bien. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que... Bah, Lorraine sait très bien ce qui s'est passé. C'est que moi, je voulais qu'il y ait cet atlas... fermé et que les gens fassent l'exercice que j'avais fait, ça passe leur temps avant de trouver la page. Mais comme un jeu de stratégie, mais un degré zéro du jeu de stratégie, c'est-à-dire que pour le coup, juste trouver une frontière, tu vois, et l'identifier et faire en sorte que, voilà, parce que la guerre c'est ça aussi. Enfin, en tout cas, ça commence comme ça. Et parce que le livre est fragile, il y a des pages qui commencent à s'enlever. Bon, ça demeure un jeu, mais un peu facile, quoi.
Oui, effectivement.
Maintenant, j'y arrive à tout l'exclure.
Oui, non, pour le livre.
Ben oui.
Ça marche pas.
Non, ça marche nulle part ailleurs. Enfin, voilà. Donc, ça s'appelle... Et voilà.
Est-ce que tu as, dans tes recherches, aussi travaillé sur d'autres fronts que les fronts occidentaux ou les fronts qu'on connaît de la Seconde Guerre mondiale? Est-ce que tu as travaillé sur d'autres guerres, quoi, avant la Seconde Guerre mondiale?
Ah oui, mais oui. Oui, parce que l'encyclopédie des guerres commence avec l'Iliade et finit en 1945. C'est une histoire de toutes les guerres.
Et est-ce que donc tu t'es appuyé sur des guerres qui ne sont pas des guerres liées à l'histoire occidentale, par exemple, sud de l'Amérique du Sud, alors, Asie.
Ben bien sûr, oui. Enfin, c'est le ce qui conditionne mes recherches, c'est la bibliographie qui mes choix. C'est-à-dire puisque je n'achète pas très peu de livres, mais les livres que j'échange. Donc, il y a un problème évidemment qui se pose, c'est que on va dire que 60% des livres que je lis et donc que je recopie en partie. Sont des livres qui ont trait à l'épopée napoléonienne, à la Première Guerre mondiale et à la Seconde Guerre mondiale. Après, il y a toutes les autres guerres. Mais il y a beaucoup de choses qui me manquent.
Il faut pouvoir lire le chinois, par
c'est
exemple.
Ça. Alors,
non,
c'est ça.
Alors voilà, non, justement, c'est que je ne lis que des livres en français, écrits en français ou traduits en français. Et là, pour le coup, il y a des modes. C'est avec la guerre de sécession. Maintenant, je commence à avoir beaucoup de choses, parce que beaucoup de choses sont traduites. Tu peux lire les poèmes de Melville, les poèmes de guerre aussi. Enfin, il y a des poètes qui
ont... Parce qu'effectivement, il y a toute une littérature effectivement chinoise et asiatique en général, parce que pas que la Chine, il y a aussi le Japon, Vietnam, etc. Bien avant les guerres modernes, hein, une grande littérature. Et donc tu te focalises quand même sur ce qui est traduit en français, ce que tu peux atteindre.
Oui, tout à fait. Après. Il y a des lacunes énormes qui me peinent beaucoup, mais par exemple, tu parlais de l'Amérique du Sud, les grandes guerres nationales du 19e, Paraguay-Chili, Chili-Pérou, Pérou-Brésil, etc., qui sont des guerres dantesques, et souvent des guerres... Bah, je pense à une guerre qui a une origine française, c'est une des guerres du Mexique, qu'on appelle la guerre des pâtisseries, par exemple. C'est le premier... il y a des guerres ridicules, hein, mais... Et ça, il y a très peu de sources, il y a très peu de livres en français. Donc il y a des trous. Mais comme je ne fais pas une recherche universitaire, c'est un pari aléatoire, puisque je ne travaille qu'à partir des livres que je reçois ou que je trouve.
Pas d'Internet, par exemple.
Non, il n'y a pas d'Internet. Il n'y a pas d'Internet.
De Wikipédia ou de...
Non. Puisque toutes les citations, pour le coup, sont... Il y a la pagination et l'édition du livre dans lequel j'ai pioché. Parce que je peux... ou alors il faudrait que j'aille sur
les livres numérisés sur BNF, sur Gallica, tu prends ou pas?
Non,
c'est pas papier,
c'est papier. C'est une histoire, c'est très parce que c'est une histoire du livre. Encore une fois, la guerre ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est comment, c'est pour ça que je raconte toujours cette histoire. Pourquoi César m'intéresse, c'est parce qu'à un moment il décide de faire la guerre en Gaule pour écrire un livre qui s'appelle La guerre des Gaules, en fait. C'est qu'au moment où César n'est pas encore César, tout voudrait qu'il fasse la guerre en Dacie, sur le Danube, etc. Tout lui impose ça. Et lui, il va faire la guerre en Gaule. Et en fait, il n'y a pas d'enjeu à ce moment-là en Gaule. Et Michelet en parle très bien quand il dit qu'il faut imaginer César porté par ses légionnaires entre deux crises d'épilepsie à la recherche d'un matériau à la hauteur de son génie littéraire. C'est que ce que César va chercher en Gaule, c'est une couleur locale, c'est ces grandes forêts gauloises, cette religion des druides qui les faisait tant fantasmer. Il va écrire un roman, il va faire une résidence pour, tu vois. Et il va pas, il fait la guerre. Bon, mais et Xénophon, pareil. Il y a beaucoup de gens qui ont fait, et Alexandre qui a pas écrit, mais pourquoi les hommes ont fait la guerre, c'est pour pouvoir. Enfin, pour faire en sorte que des livres existent, que des récits s'élaborent, ou s'énoncent, ou s'élancent, ou des fables soient mises en branle, quoi. Ben, c'est ce en quoi je crois, après, j'ai pas, c'est fondé sur rien, hein, c'est une intuition très personnelle. Et donc, c'est le livre le sujet. Enfin, tu vois, enfin, pour moi, c'est ça qui m'importe, c'est constituer la bibliothèque de guerre, que tous les livres dans la bibliothèque sont annotés, c'est-à-dire qu'on... Je sais, si je vois telle page de Nord, de Céline, que j'ai prélevé un Braum, si on va dans mon édition, on voit en effet la parenthèse avec l'entrée boum, et je sais. Enfin voilà, c'est comment découper ces livres-là, les dépecer intégralement pour qu'au final il n'y ait plus rien et que tout soit redistribué dans les entrées d'Encyclopédie des Guerres.
Voilà. Avec une économie particulière qui est que tu achètes très peu de livres, tu les échanges surtout.
Voilà.
Tu ne puises que dans les livres imprimés sur papier.
Oui.
Tu fonctionnes par. Du recopillage, oui. Et tu te permets, des opérations de non seulement de sélection, mais d'organisation à travers les entrées que tu peux renommer.
Voilà, oui.
Donc, c'est une entreprise très littéraire, en fait.
C'est un projet d'écriture. C'est
qui est lié à une forme de vie. On parlait de ça un peu tout à l'heure. Parce que ça fait des années que tu fais ça.
Maintenant, ça fait 6 ans.
Ouais. Mais les maquettes, tu les faisais depuis encore plus longtemps, non ?
Non, ça, j'ai commencé au moment où j'ai commencé l'Encyclopédie des Guerres, parce que j'ai commencé ça en pensant à une entrée qui s'appelle Histoire naturelle, justement, qui est née en parlant avec Jean-Pierre il y a des années, et je me dis, je vais créer l'entrée Histoire naturelle, et je vais inventer un truc pour illustrer cette entrée. Mais cette entrée, qui est à la lettre N, parce que c'est naturel, histoire, je n'y arriverai que dans 5-6 ans.
Ouais.
Et ces choses qui étaient dans mes tiroirs, je dis, bah, je peux peut-être les montrer avant de... que ce soit juste projeté pour illustrer une entrée d'Encyclopédie des Guerres. Peut-être que je serai mort avant. Donc autant... Enfin voilà, donc il y a...
Et est-ce que tu t'es astreint, disons, une sorte d'ascèse quotidienne ? C'est-à-dire que tu veux travailler tant X heures par jour,
ça ? Non, ça je peux pas. Non, parce que j'ai des enfants, parce que j'ai une vie de famille qui fait que je sais pas. Mais je lis tous les jours, ça, je lis tous les jours. Mais comme tout le monde, enfin, tu vois, mais...
C'est-à-dire que tu lis des livres sur ça ?
Ah oui, je ne lis que des livres de guerre. En revanche, je ne lis que des livres de guerre, et il y a 3 exceptions. C'est que depuis 6 ans, il n'y a que 3 auteurs dont j'ai lu des livres, qui ne parlent pas de guerre, c'est Olivier Cadio, Enrique Villamatas et Pascal Quignard. Pas les romans de Pascal Quignard, mais tout ce qui est autre.
Oui, mais Cadio, c'est la
spécificité que j'avais des oeuvres. Bah oui, mais en fait, il ne parle pas de guerre dedans. En fait.
Oui.
Donc, j'ai rien pu prélever dans les livres de Cadio. Non, voilà. Autrement, c'est que des livres de guerre et je ne vois que des films de guerre. Puisque les conférences sont de plus en plus illustrées, ce qui n'était pas le cas au début, mais il y a de plus en plus d'extraits de films.
Oui, il y a les livres, fondamentalement, les films. Oui. Autre chose, éventuellement.
Non.
La musique.
Ah, bah, la musique. Oui, il n'y a pas assez de musique, en fait. Il n'y a pas assez de musique. J'aimerais que ça devienne une espèce d'opéra rock. Hein,
ouais, avant l'invention du phonographe, c'est difficile d'avoir des enregistrements.
C'est quand même, y a un moment d'enregistrement des phonographes. Il y a beaucoup d'enregistrements.
On n'a pas d'enregistrement de la guerre des Gaules. Quoi.
Non, mais même 14-18, il n'y a pas de son de champ de bataille.
14-18,
non. Aucun son. En fait, c'est le papier. Ça m'a étonné parce que j'ai lu le papier dans Le Monde la semaine dernière sur le fait que tout le son que tu as, par exemple, il y a beaucoup de documents. Par exemple, le grand film sur 14-18, c'est un film qui s'appelle Verdun, Vision d'Histoire, d'un mec qui s'appelle Poirier. On nous passe ça dans tous les documentaires sur la guerre, on y voit des offensives, des soldats. Sauf que c'est fini en 1928, par des opérateurs, avec des ingénieurs du son, mais il n'y a jamais eu sur un champ de bataille, en 14-18, un opérateur avec un ingénieur du son, etc. Et c'est étonnant, mais...
Oui, il n'y avait pas assez de mobilité. Parce que les appareils existaient, mais c'était effectivement très, très lourd à transporter.
Pardon ? Est-ce que les cartes postales te sont présentées un intérêt pour ce que tu fais ? Je parle de cartes postales, qui sont en fait des clichés de guerre.
Non, mais je prends tout après. Ça me sert après pour illustrer l'encyclopédie des guerres. Mais la musique...
Il y en a qui sont très intéressants.
J'ai une question sur ta pratique. Ma question n'est pas du tout psychologique. Sur ton choix à faire coïncider une pratique d'écriture ou un projet littéraire avec ta vie, quoi, puisque ça remplit tout. Enfin, seule la vie privée, familiale, en fait, est épargnée, plus ou moins.
Non, parce qu'en plus, il y a des dessins qui sont coloriés par ma fille. C'est aussi la manière dont aussi, c'est comment...
Sur la décision, en fait, de faire coïncider... D'abord de passer de plusieurs pratiques à une seule pratique, à un seul projet qui est extrêmement riche, mais qui monopolise, et de faire coïncider ça avec ta vie, est-ce que c'est pas psychologique?
Oui, mais moi je pourrais avoir qu'une réponse psychologique pour le coup, parce que je comprends ta question, mais comment dire ça? C'est-à-dire que quand j'ai commencé à m'intéresser à la littérature, avant même de faire des études de lettres, je me disais très naïvement, mais pourquoi un écrivain ne publie pas une œuvre? Proust, il a fait La Recherche du Temps Perdu, quelques petits trucs autour, mais pourquoi il n'y a pas un écrivain, une œuvre? Pourquoi il n'y a pas un plasticien, un tableau? Enfin, tu vois, quelqu'un qui porterait toute sa vie un projet et au moment de... Voilà, c'est ça. Moi, je veux laisser ça. C'est quelque chose qui me plaisait quand j'étais petit, enfin, cette idée-là. Et c'est quelque chose qui me convainc dans mon activité. Je veux faire une chose, pas plusieurs choses. Je veux que ça... Voilà. Il y a un parti pris de modestie et d'un énorme orgueil en même temps dans ce parti pris-là. Tu vois, j'arrive pas à démêler les choses. Après, c'est Jean-Baptiste Gannes, il m'a donné un tract qu'il a trouvé à la Fondation Gramsci à Rome, que les partisans italiens ont commencé à distribuer en Italie à partir de 1943, au moment où l'Italie signe l'armistice, en fait, capitule et bascule du côté des Alliés. Et les tracts en question, c'est adressé aux ouvriers et on leur demande de saboter le travail en usine, parce que ce travail, il alimente le nerf de la guerre de l'Allemagne encore. Et il y a cette formule, travailler mal et lentement. Et je me suis dit, c'est fou, parce que ça me parle beaucoup, ça. C'est-à-dire que quand on est critique d'art ou auteur, où chaque phrase doit être pesée, où on se dit... Ah, c'est ça l'articulation, comment on va être compris, il faut que ça soit brillant, pertinent, opérant.
Bien évite, ça c'est le bien évite tout le temps.
Bien évite. Oui. Et je me dis que l'encyclopédie des guerres, je peux faire ça mal et lentement. C'est-à-dire qu'une conférence est improvisée, et j'ai beaucoup parlé de ça jeudi dernier, j'ai dit c'est drôle, je parlais de la mort de 5 frères américains, les frères Sullivan en 1942, je dis c'est drôle, et je dis mais voilà, si j'avais écrit un livre, ce terme de drôle ne me serait jamais venu sous la plume. C'est parce que je parle, parce que je peux dire n'importe quoi, on parle mal. Et vos transcriptions, ils en rendent compte, on parle tous mal. Et donc parler mal et lentement, parce que je désire que ça soit long, et il n'y a que moi qui décide de ça, qu'il n'y a pas de rendu, il n'y a pas de... Donc travailler mal et lentement, je ne réponds pas vraiment à ta question, mais en tout cas
c'est très clair. C'est vraiment le fait de développer quelque chose. Tu creuses quelque chose et tu le déplies plutôt que de poser plein de directions. Fin, essayer de trouver quelque chose qui permet de connecter
Et le terme vraiment qui m'est venu, c'est vraiment le terme de digestion. Alors, c'est pas le plus agréable ou le plus sexy, mais c'est vraiment parce que quand je suis amené à revenir à une entrée, et donc à répéter pour la deuxième fois ce que j'avais dit au préalable, en me souvenant à peine de ce qui avait été dit. Et donc c'est une digestion très lente.
Et en même temps, l'improvisation des conférences, c'est un autre format d'écriture que tes fiches ou tes recopillages, ton clavier. Donc ça permet de jouer sur plusieurs formats aussi en même temps.
Parce que le catalogue des citations, qui est un peu ma partition, qui me permet de lire comme ça, et puis de de rebondir, et puis quand ça marche pas, quand il n'y a rien qui vient ou quand c'est nul, je peux juste rebondir sur l'entrée suivante, je dis bon voilà, on arrête là, et... mais ça me permet des... Alors ce qui est le plus étonnant pour moi, c'est en effet des entrées où je me dis là, je vais avoir plein de choses à dire, là je sens que... et puis rien ne vient, et puis des entrées où je me dis là, évidemment, il n'y a pas de commentaire à faire, ça ne m'évoque rien, et je passe l'heure et demie sur...
Et ta pratique d'improvisation, elle vient d'une pratique, disons, de conférencier ou d'enseignant, ou plutôt de stand-up comédie ou de poésie improvisée à la David Antin ou de...
David Antin, la stand-up comédie.
Non, mais je veux dire, tu avais une pratique de... Enfin, la pratique de l'improvisation vient d'ailleurs, a été traduite ou il y a eu une translation, ou c'est quelque chose qui s'est fait sur le tas
C'est tout à fait quelque chose qui... J'ai découvert ça, mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a un souvenir cuisant, donc plutôt l'idée d'un fiasco qui a orienté ça. C'était le souvenir d'un séminaire universitaire à Montpellier sur la bêtise, autour de Bouvard et Pécuchet, justement. C'était 3 jours. Je passais en presque dernier jour, et j'ai vu se succéder des profs, des universitaires, mais extrêmement brillants, qui savaient lire une conférence, tu vois, tout en restant vivant. Enfin, tu vois, ils avaient leurs notes, et c'était super beau. Et je dis, putain, mais il faut que je prépare un texte, parce que j'ai toujours... Et donc, le soir, à l'hôtel, 2 soirs de suite, je tape un texte et tout. Et je me présente le dernier soir avec... et c'était un très grand amphi, et je commence à lire. Et puis je lis mal, je lis pas bien, et puis je rentre un peu vivant. Alors je m'adresse à la... Et je perds la page, je perds la ligne, et je commence à mon... Voilà, la honte, enfin, une espèce de sueur froide. Et c'était calamiteux. C'était vraiment... C'est un souvenir de honte très... qui est lié à la lecture d'un texte. Et donc, quand j'ai commencé l'Encyclopédie des guerres, je me dis, je ne veux pas ça. Je peux lire des citations, voilà, mais il faut que... Donc, c'est plutôt ça. Enfin, ce qui a orienté, c'est une expérience très négative. Ce que je ne savais pas faire, ce que je ne voulais pas faire.
Mais moi, j'ai l'impression... Enfin, on peut parler d'improvisation, bien sûr, mais j'ai l'impression surtout que, vu que tu traverses un matériau de manière... Enfin, pendant des années et des années et des années, et que tu l'incorpores complètement... Simplement, tu te donnes quelques bornes comme ça, et après, simplement, tu en parles parce que tu parles de cette expérience quotidienne que tu as.
Ouais, ouais,
donc,
oui.
Évidemment, on peut parler d'impro. Moi, je sais pas si le terme improvisation est le plus approprié.
Oui, mais ce que tu signales, Grégory, c'est ça me fait penser à autre chose, c'est que
c'est pas le ex nihilo. Hein.
Ouais.
Mais c'est répété beaucoup, quoi.
Non, mais
Il y a une digestion. Et à partir de cette digestion, bah...
Oui.
Non, mais là où je ferai une différence par rapport à la question d'improvisation, c'est que souvent, on imagine quelque chose où, bien sûr, on va puiser dans des ressources, mais on a une nouvelle chose à faire, que ce soit travailler sur un nouveau matériau en musique ou travailler sur un sujet. Mais il y a une nouvelle chose à faire qui fait qu'on est quand même beaucoup... Il y a cette idée du danger, cette idée de tenter quelque chose. Là, moi, j'ai l'impression de... Ça me fait beaucoup plus penser à ce que certains professeurs font. Moi, j'ai eu quelques professeurs fantastiques comme ça qui venaient effectivement sans notes parce que ça faisait 30 ans qu'ils travaillaient sur un sujet, qui l'épuisaient le plus possible. Et voilà, ils le pénétraient, ils arrivaient.
C'est très énigmatique parce qu'il y a eu l'entrée ignorance il y a un mois, et donc j'ai été amené à parler beaucoup du maître ignorant, de ce que j'avais compris du livre de Rancière. Et de savoir est-ce que moi j'étais un maître ignorant. Et donc c'est une question très nouvelle pour moi, parce que je me souviens avec émotion de la grande maladresse que j'avais au début à parler de ces choses que je ne connaissais pas. Mais au bout de 6 ans, quand tu plonges dans un sujet, tu finis par connaître des choses. Et donc parfois je m'entends prendre un ton un peu doctoral pour parler de, voilà, de la phalange béotienne par rapport à la phalange thébaine, et que je serais peut-être capable, je sais que je peux décrire la bataille de Waterloo, peut-être pas parfaitement, mais je finis par savoir des choses, ben, très naturellement. Et ça m'énerve, parce qu'il y a une espèce de fraîcheur qui s'est perdue, et ça bascule du côté du maître savant, de ce que Rancière appelle l'explicateur, justement. Et ça j'y prends moins de plaisir par moment, quand je voilà,
en face. Donc, tu fabriques des outils ou des petites techniques pour pouvoir toujours chercher et toujours être en train de fouiller, etc., et de pas avoir à dire ok, je sais tout de A à Z et je vais tout vous décrire, quoi.
Ah voilà.
Oh, bah oui.
Bien, merci beaucoup à tous.
Merci, Jean-Yves.
Merci à vous.